Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bon début de semaine. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et vous aurez la parole sur l'élection présidentielle en Centrafrique. Pour l'instant, aucune date n'a encore été annoncée, mais elle doit se tenir au plus tard, au mois de décembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la classe politique est déjà en ordre de bataille. Hier, le parti au pouvoir a organisé un grand rassemblement au stade de Bangui en faveur d'une nouvelle candidature de Faustin Archange Touadéra, dont le deuxième mandat termine cette année. Et de son côté, l'opposition se mobilise également. Le BRDC a prévu de marcher ce vendredi dans la capitale pour contester la perspective d'un troisième mandat du président Touadéra. Que vous inspire donc ce climat politique? Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Se dirige-t-on vers une élection présidentielle tendue? On vous attend également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec des questions sur Nicolas Sarkozy. Bonjour Abdelrazak.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de l'Aperçu de l'actualité.
Et merci de nous écouter au Tchad. Des questions donc sur l'ancien président français jugé en ce moment pour le financement présumé libyen de sa campagne de 2007.
Effectivement Juan, Nicolas Sarkozy affirme qu'aucune trace de cet argent n'a été retrouvé. Pourtant, le parquet a requis 7 ans de prison contre lui.
Oui.
Sur quel élément s'appuie la justice?
Ah, bonne question. 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour Juan et bonjour Abdelrazak.
Merci d'être avec nous, journaliste au service France de RFI. Vous avez suivi ce réquisitoire. On se souvient encore des propos de Nicolas Sarkozy au début de son procès. Vous ne trouverez jamais un centime libyen dans ma campagne. Aucune trace d'argent libyen, mais 7 ans de prison requis. Sur quels éléments s'appuie donc le parquet?
Alors vous avez raison Juan, c'est l'axe de défense principal de Nicolas Sarkozy que de dire pas d'argent libyen dans ma campagne. Et d'ailleurs, le parquet financier a en partie donné raison à l'ancien président en disant ceci, l'enquête n'a pas permis de trouver trace de cet argent, sauf que il a tout de suite relativisé cette affirmation en disant que cette absence de preuves n'invalide pas de façon certaine la réalité du pacte de corruption. En fait, pour les magistrats, ils ont la certitude qu'un pacte de corruption a bien été établi entre le clan de Nicolas Sarkozy et la dictature de Muammar Kadhafi.
Et du coup, comment le parquet démontre-t-il justement l'existence d'un pacte de corruption?
Alors avec plusieurs exemples, on va en citer un. En 2005, il y a ce voyage secret de Claude Guéant, collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Voyage en Libye pour rencontrer Abdallah Senoussi, c'est le beau-frère de Muammar Kadhafi et terroriste d'État libyen. 2 mois plus tard, Brice Hortefeux, celui que Nicolas Sarkozy appelle son frère, rencontre à son tour Abdallah Senoussi. Claude Guéant et Brice Hortefeux ont expliqué à la barre ne pas avoir souhaité la rencontre. Ils auraient été piégés par celui qui l'organisait, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine. Sauf que pour le parquet, ça ne tient pas du tout. Non seulement, d'après lui, les rencontres étaient anticipées, préparées, mais les deux hommes conservent des liens avec cet intermédiaire bien après 2005. Le parquet estime que c'est à ce moment qu'a été conclu le pacte de corruption.
Et qui dit pacte, dit contrepartie.
Oui, contrepartie dont aurait bénéficié le régime libyen. Exemple, là encore, l'exfiltration hors de France de Béchir Saleh. Béchir Saleh, c'est l'argentier du régime Kadhafi. On est en 2012 quand Mediapart se fait l'écho d'un nouveau rebondissement dans l'affaire du financement présumé libyen. Et quelques jours après, Béchir Saleh est exfiltré depuis Paris avec l'appui des services de renseignement français. Le parquet est en fait convaincu que cette exfiltration a un double objectif, protéger cet ami de la France et s'assurer de son silence parce qu'il constitue, je cite, un témoin gênant.
Voilà donc quelques-uns des éléments sur lesquels s'appuie le parquet financier. Je vous ai coupé la parole, Abdelrazak. Vous avez une autre question, allez-y.
Quelles sont les prochaines étapes pour l'ancien président?
Alors, ça commence dès aujourd'hui.
Oui, bien sûr, avec les plaidoiries de la défense qui débutent dès ce matin même. Parce qu'il faut rappeler une chose, hein, Nicolas Sarkozy n'est reconnu coupable de rien à ce stade. Il demeure présumé innocent comme l'ensemble des autres prévenus. Les avocats des prévenus, les uns après les autres, vont donc répondre à partir de ce matin au parquet financier et dire pourquoi, selon eux, leur client est innocent. Les avocats de Nicolas Sarkozy auront la parole le mardi 8 avril prochain, au dernier jour du procès. Et quant au jugement final, lui, eh bien, il sera mis en délibéré, c'est-à-dire qu'on ne le connaîtra pas avant plusieurs mois.
On suivra ça, évidemment, avec le service France de RFI. Abdelrazak, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Effectivement, Rouen.
Bon, bah,
je suis très satisfait.
Eh bien, tant mieux. Merci de vos encouragements. À très vite, Baptiste Coulon. Bonne journée. 9h16 au Tchad, 10h16 ici à Paris. On repasse au standard. On va parler maintenant des déboires d'un autre ancien président, l'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro. Bonjour, Blaise.
Bonjour, Juan. Bonjour, RFI. Bonjour à tous les auditeurs.
Dans la...
je voulais...
Allez-y. Je voulais simplement dire que vous êtes à Abidjan.
Ah, ok.
Allez-y.
Je voudrais poser une question à deux volets,
oui,
sur le président Bolsonaro, l'ex-président Bolsonaro. La Cour suprême brésilienne a confirmé qu'un procès contre l'ex-président Bolsonaro pour tentative de coup d'État aura bel et bien lieu.
Mm-hmm.
Quels sont les éléments à la disposition de la justice et que risque l'ex-président s'il est reconnu coupable?
Oui, en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire du Brésil qu'un ancien président sera jugé pour tentative de coup d'État. Bonjour Elcio Ramalho.
Bonjour Juan,
merci de nous rejoindre. Vous êtes le chef du service en langue brésilienne de RFI. Sur quels éléments se sont appuyés les juges de la Cour suprême fédérale?
La Cour suprême du Brésil donc possède plusieurs éléments justifiant l'ouverture d'un procès contre l'ancien président Bolsonaro, notamment des documents relatifs à une tentative de coup d'État après sa défaite électorale en 2022, un projet de décret visant à invalider l'élection de Lula da Silva figure parmi ses preuves, impliquant des conseillers militaires dans l'élaboration de ces plans de coup d'État.
Mm-hmm.
Pour les procureurs, l'existence de ces documents, ajoutés aux indices qui sont élaboration à impliquer des conseillers et des militaires, démontre bien que les personnes enquêtées ont effectivement conçu un plan de coup d'État et ont cherché des fondements juridiques pour légitimer cette initiative. L'enquête s'appuie aussi également sur des témoignages d'anciens ministres, collaborateurs, divers documents, enregistrements, ainsi que des accusations d'incitation à la violence, particulièrement concernant les événements du 8 janvier 2023.
Ah oui, on s'en souvient, des milliers de partisans de Bolsonaro qui prennent d'assaut les institutions de Brasilia, notamment le palais présidentiel.
Exactement. Et selon le procureur général, Bolsonaro dirigeait une organisation criminelle qui, dès 2021, remettait en question les processus électoraux brésiliens et a tenté donc d'empêcher l'investiture de Lula. Les plans comprenaient également l'assassinat de Lula, de
ah
son
oui.
vice-président Geraldo Alckmin, d'un juge de la Cour suprême. Donc, ce sont des faits étayés par des documents, messages, images, justifiant, selon la Cour suprême, l'ouverture d'une action pénale contre Bolsonaro.
Un plan qui planifiait donc l'assassinat de l'actuel président Lula. Bolsonaro est accusé de 5 crimes, c'est ça?
Ce sont 5 crimes, selon les procureurs, donc organisation criminelle armée, tentative d'abolition violente de l'État démocratique des droits, coup d'État, dommage qualifié par violence et menace grave contre les patrimoines de l'État et détérioration des patrimoines classés.
Alors que risque-t-il s'il est reconnu coupable?
S'il est reconnu coupable de toutes ces accusations, donc il risque plus de 40 ans de prison. Rappelons-nous que Bolsonaro est déjà inéligible jusqu'en 2030 pour avoir contesté le système électoral brésilien. Il y a 2 jours, où Bolsonaro, âgé aujourd'hui de 70 ans, a déclaré « Si je suis condamné, ce serait la fin de ma vie ».
Oui, en tout cas, la date du procès n'est pas encore connue. Ce qui est sûr, c'est que les juges veulent aller très vite.
La Cour suprême souhaite juger cette affaire cette année encore pour éviter que ces procès ne perturbent pas les élections présidentielles, les élections générales d'ailleurs, prévues au Brésil en
l'année
octobre
prochaine.
2026.
Effectivement, dans un peu plus d'1 an. Vous avez une dernière question, Blaise?
Oui, la dernière question, c'est comment se défend le président à l'heure actuelle. C'est vrai que le procès n'est pas encore ouvert, mais comment se défend-il de ces nombreuses accusations?
Elcio Ramalho.
Bolsonaro, il affirme que tous les documents découverts n'étaient que des ébauches, des projets jamais mis en œuvre. Bolsonaro dénonce aussi une persécution politique orchestrée par ses adversaires et le système judiciaire qu'il qualifie de partial. Il considère les accusations injustifiées. Les avocats de Bolsonaro contestent la légalité des preuves et remettent en question la compétence de la Cour suprême pour juger cette affaire, arguant qu'elle devait être traitée par des tribunaux de première instance.
Bon, on suivra évidemment tout ça. Ce procès va passionner évidemment le Brésil. Merci infiniment, Elcio Ramalho, chef du service en langue brésilienne de RFI. Blaise, êtes-vous satisfait?
Oui, merci, merci bien, satisfait.
Merci de votre confiance et bonne journée à vous, comme à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan, où il est 8h21. On repasse au standard 33 9 693 693 70. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur les réseaux sociaux, sur le compte WhatsApp de l'émission, bien évidemment, mais aussi sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Évitez de nous envoyer votre numéro de téléphone sur la page publique. Faites-le en message privé, ça évitera que tout le monde ait vos coordonnées personnelles. Willy Diallo, journaliste au service Afrique de RFI, nous a rejoint. Bonjour Willy. Soyez la bienvenue. On a des questions après la condamnation la semaine dernière de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, et c'est Alex qui est avec nous à Bangui, en Centrafrique. Bonjour Alex.
Oui, Juan, bonjour.
Merci de nous écouter et de nous appeler. Quelles sont vos questions?
L'écrivain a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Algérie. Quelles sont exactement les déclarations que les autorités algériennes lui reprochent?
Effectivement, c'est vrai que la justice algérienne lui reproche notamment des déclarations dans la presse française, Willy Diallo.
Oui, eh bien, tout a commencé en octobre 2024, lorsque Boualem Sansal a été invité à commenter l'actualité par le média français Frontières, réputé d'extrême droite. Pendant l'interview, il a raconté l'histoire de la colonisation de l'Algérie par la France et il a déclaré que, quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Selon les dires de l'écrivain, à l'époque, la France a décidé de rattacher arbitrairement tout l'est du Maroc à l'Algérie.
Alors ça, c'est la version de l'écrivain. Qu'en est-il réellement?
Eh bien, au moment de la colonisation française, on a d'un côté l'empire chérifien du Maroc, qui est craint militairement par les puissances européennes, et de l'autre, la régence d'Alger, intégrée à l'empire ottoman et qui est relativement autonome. Le problème, c'est qu'à l'époque, les frontières n'étaient pas clairement définies entre les deux entités. Selon Pierre Vermeuren, qui est professeur d'histoire et spécialiste des sociétés berbères arabes contemporaines, eh bien, il faut rappeler que les deux empires chérifiens et ottomans se sont fait la guerre à 14 reprises en 3 siècles. Aujourd'hui, on raisonne comme s'il s'agissait d'États-nations, mais à l'époque, cette notion n'existait pas. On a donc une zone tampon entre deux empires qui se disputent régulièrement la région.
En tout cas, les propos de l'écrivain Boualem Sansal lui ont attiré les foudres de l'Algérie.
Oui, parce que quelques semaines après ses déclarations, Boualem Sansal a été arrêté et incarcéré. La justice algérienne lui reproche une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Il a passé environ 5 mois en détention avant le début de son procès. Un procès qui a été rapide, d'ailleurs. Il a duré une vingtaine de minutes. Son avocat, Maître Zimré, n'a pas pu se rendre en Algérie et l'écrivain n'a pas souhaité que son avocat commis d'office s'exprime. Il s'est donc défendu tout seul. Selon l'hebdomadaire Le Point, Boualem Sansal a démenti toute intention d'offenser l'Algérie. Pour lui, ses publications sont une simple expression de son opinion. Et jeudi dernier, comme vous l'avez dit, il a finalement été condamné à 5 ans de prison.
Alex, votre dernière question, on vous écoute.
Oui, en fait, j'aimerais savoir, face à son état de santé et à la pression de la France, sa peine pourra-t-elle être allégée?
Et on rappelle que Boualem Sansal a 80 ans, qu'il est malade, effectivement, il est atteint d'un cancer. Sa peine peut-elle être allégée?
La France peut difficilement faire pression à ce niveau-là, puisque Boualem Sansal est franco-algérien. D'un point de vue légal, il faut le rappeler, elle ne peut pas vraiment s'opposer à une décision de justice rendue par l'Algérie contre un Algérien. Pour autant, le cas de l'écrivain mobilise beaucoup les politiques français. Un rassemblement en soutien à l'auteur s'est tenu 2 jours avant le rendu de la décision, et de nombreuses personnalités politiques françaises ont dénoncé ce procès qu'ils jugent injuste. Au niveau de l'Assemblée nationale française, une proposition de résolution européenne pour sa libération a été déposée déposé par le parti politique d'Emmanuel Macron. Et l'avocat de Boualem Sansal a annoncé saisir les Nations Unies pour dénoncer la détention arbitraire de son client.
Donc aucune issue pour l'instant pour l'écrivain.
Pour de nombreux analystes, Boualem Sansal s'est retrouvé pris entre les tensions récentes entre la France et l'Algérie. Depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par Emmanuel Macron et la publication d'une liste d'Algériens dangereux à expulser du territoire français dressée par le ministre de l'Intérieur, rien ne va plus en vérité entre la France et l'Algérie. Pour autant, en cas de réchauffement des relations entre les deux pays, Boualem Sansal pourrait peut-être bénéficier d'une grâce présidentielle. Son avocat français, Maître Zimray, a donc appelé le président algérien Abdelmadjid Tebboune à faire preuve d'humanité dans cette affaire.
Ah oui, c'était également ce qu'a dit le président Macron. Il a appelé à l'humanité des autorités algériennes pour prendre une décision. Merci infiniment, Willy Diallo,
merci
du service Afrique de RFI. Alex, je vous souhaite une belle journée à Bangui.
Merci Juan. Merci à vous et bonne émission et merci pour votre brillante intervention.
Eh bien, c'est normal, on est là pour vous répondre tous les matins. Merci de vos encouragements. Et puisque vous êtes à Bangui, en Centrafrique, je rappelle que dans un petit quart d'heure maintenant, on parlera de l'élection présidentielle dans ce pays. On est à 9 mois du scrutin, aucune date n'a été fixée, mais on voit bien que, aussi bien dans les rangs de l'opposition que de la majorité, on se prépare d'ores et déjà à ce scrutin. 10h26 à Paris. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan.
À Dakar, au Sénégal. Vos questions, oui. Soyez le bienvenu.
Juan, la Grèce vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la mort d'un Irakien tué par des gardes-côtes il y a 10 ans.
Oui.
Alors, mes deux questions. La première, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là?
Ah, que s'est-il passé? J'ai sous les yeux la date. C'était le 29 août 2015, au large de l'île de Simi, en mer Égée. Bonjour Tania Rado.
Rachaud.
Bonjour Tania Rachaud, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au laboratoire IEDP à l'université Paris-Saclay. Vous êtes également membre du collectif Désinfox Migration. Il s'agit là d'un mineur irakien tué par balle, effectivement, par des gardes-côtes il y a maintenant 10 ans. Que s'est-il passé?
On est à un moment donné où il y a davantage de départs entre la Turquie et la Grèce et en l'occurrence, il y a un bateau avec des personnes qui souhaitent atteindre donc l'Europe par la Grèce, qui sont en situation irrégulière et qu'on ne voit pas d'ailleurs puisqu'elles sont à l'intérieur du bateau et bateau qui
dans
est
la cale. Dans la cale,
voilà,
du bateau.
Exactement. Derrière la cabine de pilotage et donc qui est conduit par deux personnes et des gardes-côtes turcs et lettons, puisqu'en fait il s'agit d'un contingent de gardes-côtes et gardes-frontières Frontex qui interviennent à ce moment-là en raison d'une opération qui s'appelle Poséidon pour justement gérer l'afflux de migrants méditerranéens, je cite l'objectif de l'opération, et bien donc aperçoit que ce bateau souhaite l'arrêter après. Comment ça se passe concrètement? Les versions divergent un peu, mais on comprend que, disons que le bateau conduit par les deux passeurs turcs, n'est pas coopératif et les gardes-frontières, gardes-côtes, tentent une approche. À la fin, ce qu'on sait en revanche, c'est qu'effectivement, il y a ce jeune Irakien qui est tué probablement par une balle perdue et qui est retrouvé donc une fois que le bateau a été intercepté.
Et ses parents, en l'occurrence son père, saisit donc la Cour européenne des droits de l'homme qui vient donc de condamner la Grèce à verser 80 000 euros pour dommages moraux.
Oui, en effet, il y a cette condamnation. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, elle intervient toujours à la fin, donc quand les options dans un pays ont été épuisées, donc en l'occurrence en Grèce, et elle intervient pour dire si le pays a bien respecté son engagement vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme, donc d'un texte international, et en l'occurrence son engagement vis-à-vis de l'article 2, le droit à la vie. Et donc ce que reconnaît la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la Grèce a déjà, d'une part, n'a pas suffisamment enquêté sur le décès de ce jeune Irakien, et ça pose problème. Et d'autre part, l'usage de la force n'a pas été considéré comme légitime, de la force létale, par les gardes-frontières. La Cour européenne des droits de l'homme dit, en l'occurrence, il y a la Grèce ne prouve pas suffisamment pourquoi il a fallu tirer.
Ouais. En tout cas, ce n'est pas la première fois que la Grèce est condamnée pour des actes similaires. C'était déjà le cas, notamment l'année dernière. Merci Tania Rachaud d'avoir été avec nous, membre du collectif des Infox.